Cet après-midi du 25 mars 2023, dans les plaines des terres rouges de Sainte-Soline, le pouvoir a voulu faire taire notre joie. Il a voulu que le bruit des grenades couvre nos champs, que la peur nous envahisse et nous réduise au silence, que nos corps gonflés d'un même élan saignent sur les blés. 5000 explosions en moins de 2 heures, une toutes les 2 secondes. Ils ont tenté de nous tuer, et pas seulement symboliquement. Sans doute qu'à leurs yeux, nous ne sommes que de la mauvaise graine. Soyons-en fiers. Nous sommes les adventices, des pionnières, celles qui préparent l'arrivée de la forêt. De ça, ils ne parleront jamais.
There is no planet B. There is no planet blah. Blah, 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 blah.
Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre.
Hey, Copanado!
Climat de lutte, c'est l'émission de l'écologie en lutte tous les jeudis soirs sur la clé des ondes 90.10 de 19h à 20h. Et en rediffusion le vendredi de 13h à 14h.
Nous venons d'entendre un texte lu dimanche 31 mars dans la salle du cinéma Méliès à Mel, dans les Deux-Sèvres, en introduction de la première table ronde de l'après-midi. L'objectif de la rencontre était de rétablir le récit et les témoignages sur les violences policières que subissent les mouvements écologiques en général, et plus particulièrement ce qu'ont été les événements de Sainte-Soline. Vous pouvez retrouver l'intégralité des débats sur la chaîne de David Dufresne au Poste. Climat de lutte vous propose ce soir un parcours dans ces échanges passionnants, à la fois graves et tendres, joyeux et douloureux, résolument tournés vers l'avenir. Le déluge de violences policières à Sainte-Soline, les conséquences physiques et psychiques pour de très nombreux participants, tout cela aurait dû porter un coup d'arrêt au mouvement. C'était d'ailleurs de toute évidence le but recherché. Sans nier les plaies, les participants ont parié sur l'intelligence collective pour imaginer la suite. On écoute la fin du texte lu par Salinoc.
Cette énergie collective, ces échanges, cet empuissantement, cette humanité que nous savons développer le commun de nos vies. Un an après Sainte-Soline, des camarades subissent les mêmes violences. Mais il est toujours là, ce feu qui nous anime à lutter à corps et à cri contre les projets écocidaires. Et il est temps de faire la lumière sur les violences que nous subissons, de continuer à écrire notre version des faits, notre histoire. Ils ont semé la terreur, ils récoltent la colère. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous soulever. Et comme dit le proverbe, ils ont voulu nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines.
Je vais vous lire le témoignage d'Alix, 20 ans, gravement blessé à Sainte-Soline. Nous avançons, le nez et la gorge irrités par les lacrymos malgré les masques, dans un champ de guerre survolé par nos champs. Le cortège jaune a ouvert une brèche. Nous convergeons. Entre la fumée, la poussière, le bruit et la foule, nous ne savons plus où nous sommes, ce qu'il se passe autour de nous. Pour mieux voir, nous montons sur une piste surélevée, et me voilà au sol, le visage plein de sang. La grenade explose au niveau de mes pieds, quelques secondes plus tard. Le 25 mars dernier, comme beaucoup trop d'autres personnes, j'ai été gravement blessée par la main de l'État. Cela fait un peu plus de 7 mois. Aujourd'hui, je vais bien, mais ce genre d'événement laisse des traces. J'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de personnes présentes ce jour-là, et cela m'a permis de prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Paradoxalement, je n'en avais pas pris la mesure. Je suis restée finalement que très peu de temps sur place. Ensuite, je me souviens d'avoir eu froid, d'avoir senti en touchant l'intérieur de ma bouche avec ma langue que plus rien n'y était en ordre, d'avoir été transportée par mes amis et d'avoir attendu. Je me souviens de cette personne qui me rappelait simplement d'ouvrir les yeux pour ne pas partir, avec une douceur incroyable qui m'aurait fait sourire si j'en avais été capable. Je ne saisissais plus grand-chose à ce moment-là, et je ne saurais dire si c'était un médic ou un pompier, mais ce petit lien est resté gravé. Et puis, un peu plus tard, il y a eu aussi cet homme, un gendarme, à côté de moi dans l'hélicoptère. Son visage était fermé, mais ses yeux me fixaient et trahissaient une confusion, comme s'il ne savait pas quoi penser, comme s'il ne savait pas très bien si ce qu'il voyait était réel, forcé de regarder quelque chose qu'il ne voulait pas voir et qu'il ne parvenait finalement plus à lâcher des yeux. Et moi, je ne sais pas si j'étais vraiment capable de penser. Je crois que je me contentais de faire un constat assez froidement. Cet homme, à côté de moi, devait sûrement être le collègue et peut-être même l'ami du responsable de ce qu'il avait sous les yeux. Toute ma rage n'est pas directement dirigée vers les flics, mais plutôt vers leurs supérieurs et un système qui normalise et accentue la violence, criminalise nos résistances et fabrique par ses rouages une main-d'œuvre prête à tout pour défendre un ordre établi qui ne leur profite pas beaucoup plus qu'à la majorité d'entre nous. Comment peuvent-ils se contenter d'obéir encore et toujours ? À chaque fois que je vois une flic, je déborde d'envie d'aller lui poser 1000 questions. Plus tard, dans la salle où j'attendais, une machine faisait des bips irréguliers et cela m'a rendue folle, comme si toute l'angoisse et la douleur du moment s'exprimaient par ces bips. Je n'avais aucune idée de ce à quoi je ressemblais. Je cherchais mes dents avec la langue, je ne sentais plus rien. J'avais surtout le goût du sang. J'avais l'image des gueules cassées vues dans les manuels d'histoire et dans certains films. Je me suis dit, dans une forme d'acceptation, que désormais c'était à ça que je ressemblerais. Après l'opération, le réveil, la douleur, les pansements partout, les mâchoires collées et la médecine légale. Je crois que j'ai d'abord sorti mes mains des draps et j'ai bougé les pieds comme pour me rassurer et me dire « ça va, ce n'est que ça ». Et puis je pouvais ouvrir l'œil droit sous mon pansement. Tout allait pour le mieux, mais les soignantes sont entrées dans ma chambre et m'ont dit que les flics étaient là et qu'ils devaient venir prendre toutes mes affaires. J'ai fondu en larmes. C'est la première fois que je pleurais, au moins consciemment. C'était violent. Alors j'ai refusé qu'ils entrent et ce sont les soignantes qui leur ont tout donné, y compris mon portable. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû les laisser rentrer. Pour qu'ils me voient telle que j'étais, abîmée au nom du maintien de l'ordre, pour qu'ils voient ce que leurs collègues avaient fait. La réalité, sous leurs yeux, incontournable et palpable. Malgré toute la violence que j'ai subie, tout cela me donne encore de la force. C'est là-bas qu'il fallait être, et j'espère que je serai encore là où il faudra, quand il faudra. Face au mur, y a-t-il d'autres choix ?
Le témoignage d'Alix qui vient d'être lu est extrait d'un ouvrage qui paraît aux éditions La Dispute, en cette date anniversaire, « Avoir 20 ans à Sainte-Soline » par le collectif du Loriot. Étienne Douatte puis Gwendal Roblin, tous deux manifestants à Sainte-Soline et sociologues, racontent pourquoi, avec plusieurs camarades, ils ont pris l'initiative de cet ouvrage. Car en principe, des chercheurs ne font pas des écrits à chaud. Mais cette fois, comme ils le disent, on avait du mal à reprendre le cours normal de notre existence. Le retour difficile de la manifestation leur a imposé de prendre la plume.
Le piège qui a été largement et heureusement décrit, le piège militaire, le piège policier, le piège dans lequel qui nous a été tendu à Sainte-Soline. Et puis il y a eu un deuxième traquenard qu'on a très mal vécu aussi, une deuxième violence qui est la violence du récit, ou une histoire confisquée, en tout cas dans les premières heures qui ont suivi, samedi après-midi, samedi 25, le week-end du 25-26, on a eu un récit qui nous a violentés, qui a fait monter une colère assez puissante. Et alors nous avons voulu, nous, avec nos outils de sociologue, avec nos ressources, qui sont celles de l'enquête, qui sont celles de l'écriture, qui sont celles du recoupement, on a voulu contribuer à désarmer, si on peut dire, ce récit médiatique et reconstruire un récit polyphonique avec différentes sensibilités, différents, différentes expériences de Sainte-Soline, différents parcours aussi qui ont pu conduire à Sainte-Soline. Donc l'énergie, la dynamique du livre, elle se situe ici d'abord. Restituer Sainte-Soline, rétablir des faits, recouper des portraits, des témoignages, des situations et sortir finalement d'une vision très homogénéisatrice qui a pu produire un certain nombre de médias, en tout cas dominants, hein, bien évidemment, les médias dominants, une vision homogénéisatrice, notamment de la jeunesse qui globalement s'est retrouvée séparée en deux types de catégories, hein, les enragés, les violents, les radicalisés, puis les autres, la jeunesse qui est considérée comme très naïve, apathique, rêveuse ou anxieuse. Bon. Donc une des contributions en se centrant sur les jeunes qui ont participé à Sainte-Soline, c'était de déconstruire ces idées reçues sur la jeunesse et de montrer comment l'épisode de Sainte-Soline était un épisode, un contexte de formation et de transformation de soi, comment nos dispositions militantes, nos aspirations, nos manières d'envisager la lutte, nos manières d'envisager l'existence avaient pu être retravaillées dans ce contexte dont nous avons vite compris qu'il était puissamment socialisateur, possiblement transformateur, qui ferait date à la fois à l'échelle des parcours individuels, des trajectoires, des individus, mais aussi à une autre échelle, celle des une échelle plus globale, qu'il y aurait un avant et un après, que l'agenda médiatique avait été percuté, que des questions qu'on croyait confidentielles, trop techniques, réservées à quelques-uns, pouvaient être partagées, pouvaient déranger l'agenda politique et médiatique. Donc c'est à ça qu'on a voulu contribuer. Je te laisse la parole, maintenant.
Oui, alors la question de la répression, en fait, elle traverse tout l'ouvrage, puisque ceux qui sont allés à Sainte-Soline savent à quel point c'est un fait marquant. Là, je voulais revenir ici sur le témoignage de Capucine et le portrait de Laura, qui, tous les deux, mais sous des angles différents, en fait, disent quelque chose de cette répression. Capucine, elle a une vingtaine d'années. Elle est observatrice pour la Ligue des droits de l'homme. Et donc elle représente justement, elle est à Sainte-Soline en tant qu'observatrice, comme on vous l'a dit, pour la LDH, et pour rendre compte en fait de l'usage de la répression, en tout cas de ce que tu décrivais par les forces de l'ordre. Et donc son témoignage, il est intéressant dans la mesure où il saisit en fait la stupeur et la sidération qui l'ont traversée. Malgré son habitude des manifestations parisiennes, puisqu'elle vient de Paris, qui sont durement réprimées, qu'elle a déjà observées en tant qu'observatrice. Elle rappelle qu'il y a 5000 grenades qui ont été tirées, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle revient en fait sur quelque chose sur lequel on est un peu habitué maintenant, c'est sur l'usage du gaz lacrymogène, mais qui en fait est loin d'être anodin et qui présente énormément de conséquences sur les personnes. Donc là je la cite, elle nous dit que outre les dommages psychologiques, l'usage du gaz lacrymogène peut entraîner des brûlures, des hémorragies, mais aussi la nécrose des tissus de l'appareil digestif et respiratoire, voire à très haute dose la mort. Son témoignage sur la violence et sur l'état de sidération, on rencontre aussi des éléments, en tout cas des témoignages qu'on a retrouvés dans les portraits, notamment je pense à Amélie et Louise, qui nous racontent qu'en fait cette sidération qu'elles ont vécue, c'est un mécanisme de défense psychique face à un événement traumatique, en fait, tellement la violence a été intense. Et, alors je ne détaillerai pas plus, mais il faut peut-être analyser la violence, et ce qui semble être oublié parfois par les discours médiatiques, mais l'analyser à l'aune de ce qu'elle fait sur les gens, en fait. Et les conséquences qu'il y a eu, en fait, ont été passées sous silence, et ce contre-récit, en fait, il permet de le porter, en fait, ce qui s'est passé, de ne pas l'oublier, ni l'invisibiliser. Et je vais finir rapidement sur le portrait de Laura, qui, en fait, loin des caricatures, en fait, montre comment elle est tiraillée en fait entre sa nécessité de changer le monde et sa peur viscérale en fait de la police. Et c'est des tiraillements internes qu'on a pu saisir en fait à travers les portraits sur un temps long d'échange en fait avec l'outil sociologique de l'entretien qu'on a mobilisé, qui ne la caractérise pas qu'elle, mais aussi tous ceux qu'on a interrogés. Laura, elle est militante antifasciste d'une vingtaine d'années, Et en fait, elle est profondément marquée par l'épisode des Gilets jaunes, peut-être comme beaucoup d'ailleurs, qui était présent à Sainte-Soline. En fait, elle a rencontré la violence policière, comme beaucoup, pendant l'épisode des Gilets jaunes, et s'en est suivi en fait un traumatisme des forces de l'ordre, en fait, qui lui ont fait progressivement perdre le chemin des manifestations. Et en fait, Sainte-Soline, alors elle y est retournée, et ça a réactivé des questions qui l'ont traversée durant l'épisode des Gilets jaunes. Notamment, voilà, elle dit jusqu'où on est prêt à aller, en fait, dans cette lutte. En fait, est-ce qu'on est prêt à avoir des morts dans nos rangs? C'est des questions qui ont été réactivées, je pense aussi, suite à ce qui s'est passé à Sainte-Soline et à la répression qu'on a tous vécu. Pour autant, en fait, elle qui avait perdu le chemin des manifestations, elle s'est dit, quand elle a appris le rendez-vous, elle a dit « je ne peux pas ne pas y aller ». Et en fait, sa position, elle aussi, entre sa terreur vis-à-vis de la police et ce qu'elle décrit comme étant cette sensation du pavé qui gratte sous le pied. Et en fait, ça rappelle aussi que c'est des moments d'émotion qui sont puissants, où en fait, il y a une violence qu'on subit, mais aussi, en fait, c'est aussi des moments profondément exaltants, en fait, où il y a toute une solidarité collective qui se met en œuvre, qu'on a peut-être une tendance à masquer, en fait, au travers des discours médiatiques, mais c'est des moments, en fait, aussi de joie, des moments festifs. En fait, ces cortèges, ils étaient habités par un esprit de fête avec des fanfares. Il y a eu des moments à Mel aussi, où tout le week-end, en fait, il n'y a pas eu que 2 heures de manifestation. Et en fait, ça rejoint les discours qu'on a pu rassembler au travers des autres portraits, où en fait, la répression n'entraîne pas cette dissuasion. Et je terminerai là-dessus, mais en fait, criminaliser les manifestants à hauteur de terroristes, ça permet de légitimer la violence et la répression des forces de l'ordre et qui devrait être proportionnelle à cette figure de terroriste, d'éco-terroriste, et donc d'une violence assez incroyable. Et donc c'est pour ça cet enjeu de contre-discours auquel on entend contribuer aux côtés de la LDH et de toutes les personnes ici présentes aujourd'hui, c'est de réhabiliter en fait ce discours confisqué et de donner à voir ce qu'a été vécu par les gens qui étaient au plus près.
Chloé, sur les armes employées ?
Oui, sur la question des armes qui ont été employées ce jour-là, c'est une question un peu technique, mais qui révèle quand même des enjeux assez intéressants et sur lesquels il faut se pencher. Déjà, sur les catégories d'armes qui ont été utilisées, sur la terminologie qu'on utilise pour désigner ces armes, c'est des armes dites à létalité réduite. Donc, c'est un espèce d'euphémisme que l'État utilise pour parler de ces armes qui ne sont pas comme les armes à feu, des armes qui provoqueraient immédiatement dans l'imaginaire des blessures très graves et la mort, mais c'est des armes dont on sait qu'elles peuvent mutiler gravement, dont on sait à l'avance qu'elles peuvent même tuer, et évidemment que l'État le savait ce jour-là lorsqu'il a décidé de les utiliser à Sainte-Soline. Je vais vous lister rapidement les armes qui ont été utilisées ce jour-là. Il y avait des grenades de désencerclement. 89, les chiffres, c'est les chiffres officiels, c'est les chiffres du rapport qui a été mis en ligne sur le site de la préfecture des Deux-Sèvres quelques jours après, dans la maîtrise de l'opération de communication. Donc des grenades de désencerclement, et c'est ce chiffre-là qui est le plus impressionnant, 5015 grenades lacrymogènes. Dans ces 5015 grenades lacrymogènes, la préfecture ne distingue pas, la gendarmerie ne distingue pas ce qui relève des lacrymogènes classiques et ce qui relève des fameuses GM2L. Il y a d'autres articles ou d'autres déclarations de Gérald Darmanin qui parlent de 260 GM2L, mais ce n'est pas des chiffres officiels qui résultent du rapport. Et ce n'est pas neutre de ne pas signifier combien de GM2L ont été utilisés ce jour-là, de le noyer dans le flot de toutes les grenades lacrymogènes classiques. Parce que la grenade GM2L, c'est la descendante de la Gli F4, qui est elle-même la descendante de la grenade offensive, qui est la grenade qui a tué Rémi Fraisse à Sivens. Après Sivens, on décide d'arrêter les grenades offensives, on décide de continuer avec les grenades Gli F4. Les grenades Gli F4, ensuite, elles mutilent à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, elles mutilent à Bure, elles mutilent les Gilets jaunes, elles mettent en danger la vie des gens. L'État le sait très bien, malheureusement, tristement, parce qu'une employée de l'usine qui fabrique les grenades Gli F4 est décédée. Des recours sont faits contre cette grenade. Cette grenade est néanmoins maintenue dans les schémas d'opération de maintien de l'ordre. Elle est maintenue chaque semaine et projetée contre les Gilets jaunes. On fait des demandes officielles pour interdire cette grenade. et elle est finalement substituée. La GM2L vient la substituer, c'est Christophe Castaner qui l'annonce de mémoire en janvier 2020 dans une opération de communication qu'il veut tirer à son profit en disant « on a conscience de la dangerosité de cette arme, on arrête ». Non, c'est simplement que les stocks étaient écoulés, c'était prévu depuis longtemps. Ils avaient prévu de le faire, mais à ce moment-là, ils enrobent l'opération de communication. Donc c'est une arme, la GM2L, qui prend la suite de la Gli F4, qui ne contient pas de TNT comme la Gli F4, mais qui a quand même une composition pyrotechnique et qui a des effets qui sont absolument similaires. Et malheureusement, l'histoire a pu le démontrer. C'est aussi une arme qui est classée dans la catégorie des armes de guerre. Tout à l'heure, en introduction, vous parliez de la plainte pour les mensonges de Gérald Darmanin. C'est un autre mensonge de dire qu'il n'y a pas eu d'arme de guerre utilisée à Sainte-Soline, puisque la GM2L est une arme catégorie A2 et que c'est une arme de guerre. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir ces éléments de compréhension sur ces armes-là pour comprendre tout ce qui est derrière, et notamment la conscience de la létalité de ces armes et des multiples mutilations qu'elles peuvent produire. Il y avait aussi des grenades à SSR, je passe un peu rapidement, et il y avait aussi évidemment des tirs de LBD, dont on a beaucoup parlé, puisqu'il y a notamment eu des tirs qui ont été faits depuis les quads, et que dans l'opération de communication qui prend en cours les jours suivants, Gérald Darmanin dit qu'il n'y a pas eu de tirs de LBD depuis le quad. C'est faux, puisque la gendarmerie nationale demande à l'IGGN de faire une enquête sur ces tirs de LBD depuis les quads. Et que cette enquête est très rapide et très diligente. J'ai vérifié les dates ce matin. Elle est demandée le 27 mars. Et quand le directeur de la gendarmerie nationale demande cette enquête le 27 mars, il demande à ce qu'elle soit faite pour le 31 mars. Donc c'est extrêmement rapide. L'enquête est rendue au début du mois d'avril. Il y a une communication qui est faite au ministre de l'Intérieur. Et dans les jours suivants, ces conclusions sont envoyées à la presse. Et donc on a de grands articles de presse qui nous disent que les tirs étaient légitimes et les tirs de LBD depuis les quads sont blanchis. L'IGGN dit qu'il n'y avait pas de difficulté. Alors l'IGGN dit qu'il n'y a pas de difficulté parce que ces tirs auraient été commis dans un contexte de légitime défense. Ces tirs ont surtout été réalisés dans une méconnaissance totale du protocole, puisque un tir de LBD doit être fait de façon statique pour pouvoir viser à peu près correctement, si tant est qu'il soit possible de tirer et de viser correctement avec cette arme. Ce n'était évidemment pas le cas. Et qu'on enrobe tout ça avec la confusion du moment, ça serait la faute des manifestants, ça serait la faute de la situation sur place qui était tellement dramatique qu'on n'a pas eu le choix. Non, ce n'est pas des tirs spontanés qui sont faits pour répondre immédiatement à une situation qui dégénère, parce que c'est LBD, ils ne montent pas sur les quads tout seuls. À un moment donné, on met entre les mains de personnes des armes, en sachant très bien que ça ne correspond absolument pas au protocole d'usage, et ça, c'est délibéré et connu avant.
Et oui, et pour ne pas laisser impunis les mensonges tenus par Gérald Darmanin sur le déroulement de cette journée du 25 mars 2023, pour rétablir le récit de cette journée de mobilisation internationale, rappelons-le, les collectifs ont décidé de porter plainte ensemble contre le ministre de l'Intérieur et de refuser le dévoiement des institutions à des fins purement politiciennes. On écoute Julien Leguet.
Darmanin a menti factuellement, et c'est ce que vous voyez dans le courrier que vous allez signer si vous portez plainte. On a relevé scrupuleusement tous les mensonges qu'il a déclarés sous serment devant cette commission d'enquête parlementaire qui nous visait. Eh bien, on va se donner les moyens, qui est le retour de bâton, le retour de manivelle, que lui aussi ait des comptes à rendre devant toutes les juridictions qui s'offriront à nous. Et donc, on annonce aujourd'hui, on l'a déjà amorcé depuis quelques mois, une grande contre-attaque juridique. Nous allons les harceler à tous les niveaux, dans toutes les juridictions, y compris au niveau mondial, y compris au niveau des instances européennes.
Si vous souhaitez vous associer à cette plainte collective, vous trouverez le lien sur la page de cette émission. Cette plainte consiste en une saisine collective de la Cour de justice de la République pour faux témoignage. Elle sera accompagnée d'une pétition de soutien pour celles et ceux qui ne souhaitent pas porter cette plainte ou donner au ministre de l'Intérieur leur véritable nom et coordonnées. Citons quelques-uns des mensonges proférés par le ministre de l'Intérieur. Aucune arme de guerre n'aurait été utilisée contre les manifestants, les gendarmes n'auraient pas tiré de LBD depuis leur quad, l'arrivée des secours pour prendre en charge les personnes blessées par les forces de l'ordre n'aurait pas été entravée, et 7 manifestants auraient été blessés alors que les collectifs en ont dénombré 200. Pire, en octobre 2023, devant la commission d'enquête parlementaire, après avoir prêté serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, le ministre a osé continuer à mentir en affirmant que les forces de l'ordre n'ont pas mené d'attaque ni commis des moindres violences tout en restant passifs en place sous les jets de pierres, de haches et de cocktails Molotov. Comme on va l'entendre dans les multiples témoignages qui vont suivre, ces mensonges sont ignobles et il est indispensable de rétablir la vérité. Non, l'usage de la force à Sainte-Soline, je peux en témoigner, n'avait absolument rien de proportionné. On écoute les précisions d'Hélène.
Hélène, est-ce que tu peux nous parler de cette disproportion de la répression ?
Oui, ben y a violence et du coup il y a énormément de blessés. On ne peut pas avoir de bilan exhaustif complet de toutes les blessures, c'est impossible. Il y a des gens qui sont venus passer par les médias, qui n'ont pas témoigné, qui voilà, donc on ne sait pas forcément qu'ils existent. Mais on arrive quand même à avoir un certain nombre de données qui permet d'établir qu'il y a énormément plus de blessés que ce qui a été annoncé tout de suite après par la préfecture. Je crois qu'il y avait annoncé 6 ou 7 blessés. Voilà, bon, évidemment, nous on arrive à plus de, au moins 200 blessés en tout cas. Donc je vais un petit peu détailler parce que je pense que c'est important de se rendre compte de quoi on parle. Donc on a eu 2 victimes avec le pronostic vital qui a été engagé pour l'un pendant quelques jours, pour l'autre pendant plusieurs semaines. Hein, il s'agit de Mika et Serge. Il y a eu une victime avec des multiples fractures au visage, Alix, dont on a lu le témoignage tout à l'heure. Il y a eu une victime avec un fracas osseux au pied, c'est-à-dire des os complètement fracassés au niveau du pied qui ont à un moment engagé son pronostic fonctionnel. Il y a eu 2 victimes qui ont perdu un œil à Sainte-Soline, on en parle assez peu, mais il y a 2 personnes qui ont été éborgnées. Il y a une victime qui a eu le nez arraché. Au moins, nous, ce qu'on a recensé, c'est au moins 5 fractures, au moins une quinzaine de plaies délabrantes. Peut-être que JB parlera un petit peu de ce que c'est tout à l'heure, avec pour certaines des éclats incrustés, aussi des dizaines de plaies, hématomes, brûlures, des dizaines de chocs acoustiques, avec pour certains des pertes irrémédiables d'audition, pas totales mais partielles. Donc en tout, il y a au moins 200 personnes blessées et dont au moins 36 hospitalisations. Et puis il y a aussi les atteintes psychologiques. Donc ça, elles sont vraiment très importantes et c'est important pour nous au sein de la saisine de la Défenseur des droits d'en parler parce qu'au départ, on avait fait un petit peu la distinction entre les blessés et les témoins. Mais en fait, beaucoup de témoins rapportent aussi des blessures psychologiques et qui ont parfois un impact important. Donc voilà, je peux vous lire quelques extraits de témoignages qu'on a reçus. Plusieurs nuits d'insomnie où je me réveille avec les mêmes acouphènes et sensations d'étourdissement quand une grenade explose juste à côté. Le moindre bruit me fait sursauter, la moindre voiture de police me terrorise. J'ai mis 2 semaines, dont 3 en arrêt de travail, des boîtes de Xanax et quelques séances de psy à retrouver une vie à peu près normale. Donc c'est des blessures psychologiques qui ont un impact important sur la vie des personnes. Donc il y a eu des arrêts de travail, il y a eu des personnes qui vont toujours pas bien d'ailleurs. Dans la saisine, on a vraiment beaucoup de gens qui parlent de scènes de guerre quand elles décrivent ce qu'elles ont vu, au point qu'il y en a plusieurs qui ont eu peur de mourir. Une des données aussi qu'on peut avoir dans la saisine, c'est qu'on voit que la force, elle est utilisée de manière totalement disproportionnée et indiscriminée. Ça, c'est important parce que nous, dans le cadre de la saisine de la Défenseur des droits, c'est par rapport à la déontologie des forces de l'ordre. Ils ne peuvent pas utiliser la force n'importe comment, notamment il faut que ce soit proportionné. Et là, on voit que ça n'a pas été le cas, que tout le monde dans la manifestation a été touché. La violence, elle a touché vraiment l'intégralité des personnes, quelle que soit notamment leur distance vis-à-vis des forces de l'ordre. On a eu des blessures graves, y compris de personnes qui étaient loin de la bassine. Par exemple, une personne à 100 mètres de la bassine, elle reçoit un éclat de grenade dans le coude, avec un éclat qui reste fiché dans son coude avec une fissure. Une autre, 150 mètres de la bassine, reçoit un éclat dans l'œil. Une sensibilité particulière à la lumière, c'est un handicap permanent qu'il aura toute sa vie. Donc 150 mètres de la bassine pour cette personne, à 200 mètres on a des personnes qui ont perdu de l'audition, donc même des gens qui étaient très loin, qui avaient vraiment absolument rien à voir avec les affrontements ont été touchés, ce qui ne veut pas dire bien sûr que les gens qui avaient quelque chose à voir avec les affrontements méritaient ce qui leur arrivait, mais en tout cas dans le cadre de l'usage proportionné et discriminé, on n'est pas du tout dans les clous de ce que prévoit la loi. On a eu aussi une attaque de quad sur les blessés, on y reviendra plus tard. Et puis des usages non réglementaires des armes, des gens qui ont été touchés directement à la tête. Voilà, là aussi dans la saisine, on a des gens qui se protègent parce qu'ils voient un projectile, enfin une grenade arriver sur eux, qui se protègent, donc qui sont blessés au bras. On a des personnes qui prennent des grenades dans la tête. Et donc ça, c'est typiquement des tirs qui sont non réglementaires, puisque les grenades lacrymogènes, elles sont censées s'ouvrir en l'air et ensuite relâcher des balais et pas arriver directement sur les personnes. Voilà.
Écoutez Climat de lutte avec Sylvie Noni sur la clé des ondes.
Et Climat de lutte vous ramène à Mel ce 31 mars où se déroulait une journée de témoignages, de débats entrecoupés de projections autour des événements de Sainte-Soline en mars 2023. Vous aurez peut-être connu la chorale La Militante. On a entendu tout à l'heure le témoignage d'Alix, que l'on peut retrouver dans l'ouvrage collectif « Avoir 20 ans à Sainte-Soline ». On écoute maintenant celui d'un des médics qui l'a prise en charge.
Jean-Baptiste. Alors bon, donc moi j'intervenais comme médic juste sur les différents aspects de disproportion. D'abord moi je suis dans le même cortège qu'Alix. Et on n'est pas encore arrivé sur le site de la bassine qu'il y a déjà des tirs dans la direction de ce cortège-là. Et assez rapidement, alors qu'une bonne partie de ce cortège-là est à distance, et moi je suis plutôt en retrait pour un peu évaluer ce qui se passe vu la confusion qui règne déjà, il y a des personnes, comme tu as pu le préciser, qui présentent des plaies délabrantes. Donc là, il y a des grenades explosives, avec des charges explosives, même s'il n'y a plus de TNT dedans. Une plaie délabrante, hein, c'est une plaie d'impact. C'est-à-dire qu'il y a un trou à l'entrée, et en fait, à l'intérieur, la diffusion du corps étranger vient, parcourt de manière un peu aléatoire les chairs, et vient créer des lésions internes plus importantes que l'impact. Voilà, donc assez rapidement, moi, j'ai plusieurs blessés avec ce type de blessures qui font appel aux médics. Donc ça, dans une... Moi, je m'étais préparé, hein, compte tenu des discours qui vous ont été rappelés, à la violence. C'est mon choix d'être médic sur ce type de manifestation. Il est motivé, hein, par l'aggravation des politiques de répression dans le maintien de l'ordre. Et du coup, je m'étais préparé un peu à la violence de ce qui allait se passer, pas à cette immédiateté et pas avec cette intensité-là. Elle a pu le dire, il y a le témoignage de ces deux binômes qui l'ont pris en charge initialement. Elle était à ce moment-là plutôt éloignée, plutôt observatrice. Elle a pris un tir direct d'une grenade qui explose, au niveau du visage. Au cours de l'évacuation, nous, on est interrompu dans l'évacuation par l'intervention des quads pour pouvoir passer et l'extraire et l'emmener dans un endroit où on pourra la transférer au secours. Moi, à un moment donné, je me défais de toutes mes protections. Je traverse un nuage de gaz, je sors les mains levées, donc sans aucune protection, avec quelque chose qui montre que je suis médic. Hein. J'ai un sac de secouriste sur les... J'ai un brassard blanc sur lequel il y a écrit médic. Je suis quand même mis en joue par plusieurs binômes. Enfin, sur les quads, il y avait des binômes de gendarmes. Je suis mis en joue. Et les gars me disent d'arrêter, de m'arrêter. Mais je ne les menace pas, j'ai les bras en l'air. Enfin, voilà, il n'y a rien qui justifie, quoi.
On enchaîne avec le témoignage d'un observateur de la LDH, la Ligue des droits de l'homme.
Oui, je disais tout à l'heure, là, c'est pour mesurer l'écart entre les observations faites par les différentes équipes et ce qui en est dit dans les rapports officiels de la gendarmerie et de la préfecture. Vous allez voir, c'est très, très étonnant. Alors là, je vais prendre mes notes parce que on essaie d'être très précis, vous l'avez compris, et de ne pas raconter n'importe quoi, hein, comme certains peuvent se le permettre devant la représentation nationale ou devant les commissions d'enquête parlementaires, etc. etc. Hein. Donc nous, on essaie de ne pas dire de bêtises, donc on se concentre sur les notes qu'on a. Le PM2I, c'est le peloton motorisé d'intervention et d'interposition. Ce sont ces gendarmes sur les quads, là. Donc je parle du gazage des blessés. Hein. Ça ne va pas durer très longtemps. Mais vous allez comprendre très vite le discours et comment le rapport de l'inter-observatoire vient contrer ce discours officiel. Alors le PM2I, il intervient sur le champ du Fougeroux, hein, c'est noté comme ça sur la carte, entre 13h41 et 14h03. À 13h53, une chaîne humaine composée de manifestants calmes et d'élus identifiables grâce à leur écharpe tricolore. Alors, elle se forme pour protéger des personnes blessées, dont deux blessés graves ne pouvant se déplacer. Malgré tout, les gendarmes du PM2I montés sur leur quad, hein, ils font le tour, hein, c'est-à-dire ils prennent à revers les manifestants, hein, et ils tirent de manière indiscriminée et généralisée sur toute la zone, en visant les blessés, les élus, les manifestants qui les protégeaient. Une équipe d'observateurs parfaitement identifiables et une journaliste à côté d'eux ont été également visés par des tirs. On a des grenades, nous, qui tombent à 5 mètres, hein, donc c'est vraiment très très proche. Hein. Alors, on le rappelle dans le rapport, tirer sur des personnes blessées au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ça s'appelle un traitement inhumain et dégradant. Aucune mention de cet événement dans le rapport de la préfecture. Et le rapport de la gendarmerie ne fait même pas apparaître la chronologie de l'intervention du PM2I, là, du peloton motorisé, entre 13h41 et 14h03, alors que toutes les autres interventions bien plus brèves sont notées dans le rapport. Si la LDH a été la cible des attaques de Darmanin, aussitôt le rapport paru, c'est bien parce qu'il est difficile de venir nous contester ce rapport, point par point, sur les observations qui sont faites. 5 équipes sur place, 5 minutiers qui viennent corroborer tout ce qui est dit dans ce rapport. Sur l'entrave au secours pour Serge, qui a été beaucoup contestée aussi, hein, mais celle-ci, elle est bien documentée dans le rapport, les faits, ils interviennent dans la période dite de trêve, on a appelé ça comme ça, entre 14h08 et 15h08. Sur ce point, la version officielle est fausse et incohérente. Dans le rapport de la gendarmerie, la trêve est indiquée à partir de 14h20. Et dans le rapport de la préfecture des Deux-Sèvres, elle est indiquée à partir de 14h30. Là encore, hein, vous voyez le décalage énorme. Et ça va être important pour la prise en charge. Et puis, je sais que les parents de Serge sont présents et puis qu'il y a eu une plainte qui a été déposée par rapport à ça. Ils pourront au moins s'appuyer sur les faits observés par les différentes équipes. Hein. Dès 14h11, le SAMU est contacté à propos de Serge et indique ne pas pouvoir intervenir, ce qui continue d'être le cas au fil des appels durant toute l'heure. Les observateurs ont pu vérifier directement sur le terrain que le SAMU puis les pompiers ne pouvaient pas parvenir jusqu'aux personnes blessées. Et je vous ai parlé du back-office avec les avocats de la LDH présents à Mel. Et à Mel, Les avocats de la Hache ont le SAMU au téléphone. On a l'enregistrement complet hein, du SAMU. Et il est disponible sur le rapport. Et puis vous pouvez le lire intégralement. Et je vous lis simplement une phrase. Hein, c'est le SAMU qui parle. On n'a pas eu l'autorisation de toutes les institutions sur place. Pour l'instant, on est sous leur commandement. Alors, s'il n'y a pas entrave au secours, j'aimerais qu'on me l'explique, moi.
L'État, donc, annonce bien en amont qu'il va y avoir de la violence, qu'il va y avoir des morts. Il met tout en œuvre pour ça. Ça se passe. Et pourtant, il n'y a rien qui est prévu en termes de secours. Cette absence de secours, est-ce qu'on peut dire qu'elle est préméditée ?
Je vais vraiment me dispenser de répondre à la question parce que moi j'ai un conseil de l'ordre qui pourrait. En tout cas, moi ce que je peux être, c'est très factuel. À partir du moment où je prends le relais des deux premiers binômes pour la prise en charge d'Alix, il y avait une régule médique. C'est-à-dire que pour ne pas forcément saturer d'appel au 15 le SAMU, on avait une ligne dédiée à l'interne. Quand j'appelle, Serge a déjà été blessé et du coup le régulateur il est trop occupé par sa situation à lui pour pouvoir répondre à mes besoins et à ceux d'Alix. Du coup je me retourne vers le 15. J'ai un premier appel vers le 15. Le médecin régulateur. Alors d'abord il faut que je me batte avec l'agent de régulation médicale. Hein, il faut que je négocie avec ce personnel pour pouvoir parler au médecin. C'est pas normal. Surtout que je me présente, j'étais médic, mais je suis médecin, donc je me présente en tant que médecin quand j'appelle. Le médecin que j'ai au téléphone reconnaît la nécessité d'un transport médical urgent pour Alix, mais le conditionne au fait qu'on n'expose pas les pompiers ou les ambulanciers à des risques pour eux-mêmes, ce dont je peux convenir. Malgré la difficulté de la transporter, on décide donc de la sortir du champ et de l'amener sur une route goudronnée, à distance du lieu de la manifestation, avec là une difficulté à faire ce trajet-là du fait de l'intervention de la brigade motorisée. Une fois que je suis qu'on est arrivé sur la route avec le brancard, je passe un deuxième appel. Donc là, plutôt aux pompiers, parce que c'était un peu ce qu'on avait convenu avec le médecin du SAMU, c'est qu'une fois que j'étais à l'abri, je pouvais solliciter les pompiers. Donc les pompiers me disent « Ouais, ok, on vient, mais on n'arrive pas à vous géolocaliser. » Alors la petite précision hein, en termes de géolocalisation, avec les téléphones portables aujourd'hui, hein, les forces de l'ordre, qui en plus, grâce à la loi de programmation militaire de 2017, se substituent aux fournisseurs de réseau sur ce type de manifestation-là, elles vous localisent à 3 mètres. Vu qu'il ne se passe rien, je finis par rappeler le 15. Là, entre-temps, miraculeusement, il y a un poste médical avancé qui s'est organisé sur la commune de Clusset-la-Pommeraye, pas très loin. Et le médecin de ce poste médical me dit qu'il ne va rien envoyer comme secours à cause des affrontements qu'on a eu à côté de moi. Mais il n'est pas sur le terrain, et moi, je vois bien que je suis à 800, allez, peut-être 600 mètres seulement, parce que je pense que quand je suis à 800 mètres du moindre affrontement. Bon, il n'y a pas encore eu l'attaque de la brigade contre les blessés. Et personne, à aucun moment, aucun des professionnels, médecins, pompiers, etc., m'a dit que j'étais dans une zone d'exclusion. Je découvre l'existence de cette zone d'exclusion alors que je témoigne devant l'IGGN dans le cadre de leur enquête. Voilà.
Peut-être rebondir sur cette question de la zone d'exclusion. L'accès à la procédure quand les enquêtes seront terminées nous permettra d'en connaître réellement l'ampleur voire même la réalité. Moi je m'interroge là-dessus. Pourquoi on n'en parle pas dans la journée? Pourquoi toutes les personnes qui peuvent avoir des soignants au téléphone on ne leur parle pas de cette zone d'exclusion? Elle arrive après dans le discours, elle est évoquée. Elle est évoquée notamment. La position du SAMU 79 est un peu ambivalente. C'est étonnant, ils ont une page sur les réseaux sociaux, ils ont beaucoup communiqué sur le fait qu'il n'y avait eu aucun problème dans l'intervention des secours. vois pas comment on peut décemment tenir cette position. On n'est pas à dire que les soignants sont des criminels, loin de là, mais on peut s'interroger sur l'intervention des secours ce jour-là. Je trouve ça étonnant et surprenant que le SAMU 79, quelques jours après, prenne position immédiatement en disant qu'il n'y a pas eu de problème, relaye des articles. Voilà, il y a des questions qui se posent. J'espère qu'on pourra avoir des débuts de commencement de réponse et pouvoir tirer un peu toutes les fils des responsabilités de ce jour-là.
On a donc une violence qui est la violence du récit, la violence symbolique de nous faire passer pour des terroristes, de mentir. Tout ça, c'est de l'ordre de la violence symbolique. Il y a la violence physique et il y a aussi, après, la violence judiciaire. Najette, sur la répression, qu'elle soit immédiate et au long cours, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les camarades qui sont passés au tribunal jeudi dernier, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur tout ça?
Alors oui, effectivement, sur les mobilisations bassines, la répression judiciaire commence un petit peu toujours de la même façon. De l'intimidation à l'égard des organisations, de l'intimidation à l'égard des gens qui seraient OK pour prêter des terrains, de l'intimidation sur des communes. Ensuite, pour tenter d'empêcher les mobilisations, ce sont les arrêtés d'interdiction de circulation, de rassemblement, de transporter tel ou tel matériel. L'idée, c'est vraiment de faire peur, de dissuader à coup de communication. Pour Sainte-Soline, il y avait eu ces décrets d'interdiction. La réalité nous a montré que ça marche moyen, puisque vous étiez des milliers à converger il y a un an vers ici. Alors pour parler un peu du contexte de cette répression, on ne peut pas faire l'impasse de la circulaire du ministre de la Justice, une circulaire parue en novembre 2022 et à l'attention des procureurs généraux, à l'attention des présidents des cours d'appel, des présidents de tous les tribunaux, et qui c'est une circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises dans le cadre de contestation de projets d'aménagement du territoire. Donc là, un peu la main sur le cœur, il commence en disant « Si la protection de l'environnement et la préservation de notre patrimoine commun constituent des sujets de préoccupation légitimes, on pourrait presque y croire, les actions menées en marge de mouvements de contestation, donc il y a toujours les mobilisations et cette fameuse marge, ils n'ont pas compris que c'était eux qui étaient à la marge, et donc tous ces les actions menées en marge des mouvements de contestation de projets d'aménagement du territoire portent atteinte à l'ordre républicain, là on peut remettre la main sur le cœur, lorsqu'ils prennent la forme d'affrontements violents et de jets de projectiles dirigés de manière systématique à l'encontre des forces de l'ordre. Là ils s'emballent un petit peu. Et effectivement, ensuite, ils donnent toute une série de consignes sur d'éventuels traitements judiciaires des infractions. Donc, ils donnent un peu des idées. Dégradation, participation à une manifestation en étant porteur d'une arme, préparation de violence, groupement, rébellion aussi, ça pourrait passer. Enfin voilà, dans cette directive, il donne un peu tout ce qui est là, possible pour réprimer ces mobilisations. Et effectivement, cette circulaire, le tribunal de Niort va la faire sienne. La circulaire, elle paraît en novembre, et il y a déjà eu la mobilisation de Mauzé-sur-le-Mignon, la visite du chantier en septembre 2021. Et les personnes qui sont prévenues, qui vont comparaître suite à cette mobilisation, ils reçoivent leur convocation autour de fin novembre 2022. Les chefs d'inculpation, c'est violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation d'engins de chantier. 4 sont condamnés avec des peines d'emprisonnement de 6 mois, 6 mois, 4 mois et 2 mois avec sursis et une relaxe. Ensuite, il y a la mobilisation, le fameux débâchage de Cramchaban en Charente-Maritime. Ça, c'est le 6 novembre 2021. 2 personnes sont convoquées pour un procès à La Rochelle. Alors ça, c'est un énorme dossier, plus de 1000 pages d'investigation. Combien ils ont pris? Ah oui, 200 et 500 euros d'amende, le verdict. Ensuite, c'était Sainte-Soline 1. Alors là, il y a eu pas mal de comparutions immédiates des personnes gardées à vue lors de la mobilisation, et un qui a été placé en garde à vue au bout de ces 6 jours d'hospitalisation. Et ça, c'est pas anodin, parce que sur Sainte-Soline 1, le fait d'aller récupérer des gens à la sortie de leur hospitalisation, ça a foutu pas mal la trouille à des manifestants à Sainte-Soline 2, qui, plutôt que d'aller dans les hôpitaux du coin, eh ben, ils sont repartis avec leurs blessures, au risque d'aggraver leur situation, et ils sont repartis sur leur département. L'idée, quand même, de la comparution immédiate avec des chefs d'inculpation de... participation à une manifestation en vue de commettre des violences. Là, on est sur l'idée de juger une intention présumée, ouais, sans aucune preuve. Ensuite, donc, ces comparutions immédiates, le président du tribunal, il décide de convoquer ces 5 personnes un mois après, histoire que ça aille très très vite. Alors là, on assiste un peu à un grand moment de parodie de justice. La demande de renvoi a été rejetée. L'audience se veut expéditive, le jugement se veut expéditif aussi. Et ils sont inculpés, enfin condamnés entre 2 et 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Et là commence à intervenir cette interdiction de comparaître dans les Deux-Sèvres. Ensuite, Sainte-Soline de l'année dernière donnera lieu à 3 procès. Un premier procès avec 5 prévenus le 27 juillet. Les chefs d'inculpation vont de recel, c'est le fameux procès du moine, du lapin et du gendarme. Qui est le moine, qui est le lapin, enfin voilà, la grosse enquête, quoi. Voilà, des grosses perquisitions avec des intimidations sur la famille, sur l'entourage, le lieu de travail, etc. Ça, c'est. Voilà. Donc, les chefs d'inculpation recèlent participation à un groupement en vue, toujours, hein, de dégradation de biens avec dissimulation du visage. Donc, là, sur ce procès, il y a deux des personnes qui sont condamnées quand même à de la prison ferme. Cédric qui prendra 8 mois et Loïc qui prendra 1 an avec l'aménagement de sa peine avec un bracelet électronique à domicile. Et les autres prendront 2 mois et 4 mois d'emprisonnement avec sursis et toujours cette interdiction des Deux-Sèvres. Mais le procès des organisateurs, mais je vais pas en parler parce que si on commence à parler du dossier judiciaire de Julien Leguet, on en a pour l'après-midi. Et je crois qu'il a un dossier à faire pâlir tout le Conseil des ministres. Et le dernier procès qui a eu lieu jeudi. 24 000 contrôles partout en France qui ont donné 7 personnes interpellées. Vraiment des chefs d'inculpation de fond de tiroir, avec quand même quelque chose de très grave, l'utilisation de la reconnaissance faciale qui a été un peu... à mon avis, c'est un terrain sur lequel il va falloir continuer à creuser parce qu'elle est utilisée de façon complètement illégale, discriminatoire. Voilà.
J'identifie comme ça dans la salle et puis dans nos mouvements écologistes de façon générale, on est quand même plutôt très blanc. Ouais. Et que cette répression pour laquelle... Enfin, on est là pour parler de répression et ce qui s'est passé il y a un an, c'était très violent, ça nous a énormément marqué. Mais il ne faut pas oublier que le laboratoire de la répression, c'est quand même les quartiers populaires et les banlieues. Et que c'est important de le rappeler. Parce que l'État teste ses armes et ses moyens de répression d'abord sur les quartiers populaires. Et c'est vraiment important de le rappeler. Si jamais c'est une question qui vous intéresse, je vous invite à lire Mathieu Rigouste sur le sujet, il est extrêmement pertinent.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains sous le soleil. C'est elle que l'on attraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffle et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage.
Et toujours la chorale, la militante. La dernière table ronde de cet après-midi était animée par David Dufresne. Il interrogeait Danielle Ibanez, cheville ouvrière du mouvement contre le Lyon-Turin, une lutte sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine émission. Danielle, après avoir raconté cette lutte, était interrogée sur les convergences et les divergences avec celle contre les méga-bassines.
Daniel, je vais te donner la parole. Dans la mesure où l'intitulé, c'est « Convergence et divergence entre Sainte-Soline et la répression des autres milieux militants écologistes », appuie sur les divergences, qu'on apprenne des choses. Et je précise que tu es aussi le fondateur du Salon des lanceurs d'alerte qui a lieu chaque année en Ile-de-France au mois de novembre.
Avant toute chose, je voudrais rappeler l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je suis toujours un peu attaché aux fondamentaux. La garantie des droits de l'homme nécessite une force publique. Et cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. 26 août 1789, comme quoi on a beaucoup de choses à se souvenir. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans les exposés que vous avez faits tout à l'heure, quelque chose m'a marqué dans l'histoire. C'est cette propension à essayer de criminaliser, mais surtout de dire, voilà, ils vont tuer du gendarme, il va y avoir d'extrême violence, etc., de préparer les esprits. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait pour le 17 octobre 1961, où les Algériens ont été décimés. Comme quoi l'histoire peut nous servir quelque chose. Alors tout à l'heure, j'entendais aussi dans un récit que les policiers ne sont pas tous comme ça. Je rappelle quand même que la gendarmerie, dont on peut identifier les votes, vote très majoritairement pour le Rassemblement national. Tu vois, la divergence, en fait, c'est une question compliquée, parce que dans la répression, il n'y a pas de divergence. Depuis le 17 octobre 1961, les méthodes sont les mêmes. Finalement, on a toujours les mêmes. On a effectivement un problème avec une police qui ne respecte pas la mission qui lui est confiée par l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, la garantie des droits de l'homme. La garantie des droits de l'homme, la garantie de la liberté d'expression. Effectivement, on a un problème. D'où la nécessité d'aller sanctionner tous ces gens. Alors, comme je vous ai dit que j'avais des goodies pour le Tour de France de la répression, là, puisqu'on y est, je vous invite le 2 juin dans la région Rhône-Alpes, où bien évidemment nous allons pouvoir montrer ça. Donc je finis, je conclus, j'ai la fiche rose.
Ça fait 2 minutes que tu as la fiche rose.
Ah merde, j'avais minute. Même pas vu moi. Donc, alors, je regardais la salle, c'est pour ça. Donc je finis. Il faut vraiment avoir des députés de combat, des élus de combat, et donc il faut voter.
En conclusion de l'ouvrage collectif dont nous avons parlé et qui était présenté ce dimanche à Mel, Avoir 20 ans à Sainte-Soline, Corinne Morel-Darleux écrit un article à vos corps défendant. Elle écrit dans celui-ci « Vous qui étiez à Sainte-Soline, je voudrais que le monde entier voit vos visages, vous écoute et découvre vos vies, parce qu'il serait alors impossible de vous détester, impossible de vous faire passer pour des terroristes, impossible de prendre le risque de vous mutiler. » Un peu plus loin, elle écrit « En littérature, pour donner corps à un ou une protagoniste, on lui attribue les traits physiques, mais aussi un statut social, des traumatismes et des rêves, auxquels les lectrices et lecteurs peuvent s'attacher. C'est ainsi qu'un personnage de roman en vient à acquérir la consistance de la réalité et peut nous entraîner corps et âme. C'est également vrai dans la vie. Nous avons besoin de figures qui donnent envie d'avancer à leur côté, parce qu'on les reconnaît. Ainsi, en matière d'éthique et de politique, s'il n'y a pas de sauveur suprême, il existe en revanche des créateurs et créatrices de sillage, des guides inspirants et inspirantes, qui tracent un chemin dans lequel placer ses pas. En regrettant de ne vous avoir fait entendre qu'une petite partie de ces témoignages inspirants entendus à Mel dimanche 31, je vous dis à la semaine prochaine.